La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Oussem Moussaïev, Thibaut Jean-Grande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Live. Comment ça va mon Ouss?
Écoute, ça va très bien Thibaut. Bonjour. Très heureux d'être avec toi pour cette belle soirée, un beau match qui nous attend.
On est mercredi, le 22 mai, les championnats sont en train de se terminer, finis chez nous, l'Euro arrive dans quelques semaines. Et là ce soir, on lance les finales européennes quand même.
C'est beau.
21h, la finale de la Ligue Europa.
Avec une équipe... qu'on aimerait voir perdre juste pour l'histoire.
L'Atalanta. C'est le Bayer Leverkusen qui est invaincu cette saison, qui dispute cette finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame qui a éliminé l'OM en demi-finale. Le coup d'envoi c'est à 21h. Dans un instant, la compo des équipes avec Valentin Jamin qui vous fera vivre cette rencontre ce soir. Les analyses avec Johan Crochet, Paulo Breitner qui nous rejoignent dans quelques instants. Et c'est une soirée qu'on va passer en compagnie de coach Courbis. Salut mon Roland.
Salut les amis.
Ça va mon coach?
Ben ouais.
Il y aura du but. Hein.
J'attends ce match avec beaucoup d'impatience parce que c'est deux belles équipes. J'étais même surpris que l'Atalanta perde contre la Juve. Donc, je les ai pris en sympathie, l'Atalanta.
Je pensais que tu allais dire que j'étais surpris qu'ils battent l'OM.
Malgré qu'ils ont battu l'OM, mais bon. Cette OM-là, on n'en parle plus. Allez.
Bon, là, en plus, ce soir, on va faire semblant qu'il y ait du suspense, mais on sait tous comment ça va se terminer.
Bah, tu vois, coach, il a l'air de dire qu'il y a du suspense. Tu vois.
Non, mais on sait. L'Atalanta va mener 1-0 à la 92e et c'est le Bayer qui va gagner 2-1.
Exactement.
À la 97e. On sait très bien comment ça va se passer. Mais on va faire semblant qu'on ne sait pas.
On n'a jamais regardé un match du Bayer cette année. On n'a jamais vu.
Les compos, justement, 20h30, le Bayer Leverkusen va-t-il finir invaincu? On vous attend au 32-16, l'Atalanta au programme également. Enfin, un titre ce soir, peut-être, pour l'Atalanta de Gasperini. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Et puis, 20h15, ça a bougé à Nice aujourd'hui, dans tous les sens. Alors, on savait que certains étaient sur le départ, c'est désormais fait. Farioli s'en va, direction l'Ajax. Gisolfi est officiellement à Rome. Et puis, on aura des infos à vous donner, mais le tandem Genesio Maurice tient la corde. Les Niçois, on vous attend au 32-16. Max est là au standard. Déjà, venez nous dire si la saison a été réussie de l'OGC Nice, cette seule saison de Farioli. Et puis surtout, êtes-vous inquiet pour la suite? On en débat avec vous tous au 32-16. Et puis juste avant d'aller à Dublin, je vous rappelle qu'on joue tous ensemble. La roue est de retour et elle est repartie pour un tour. Chaque jour, vous allez pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros dès que vous entendez cette alerte. Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant roue par SMS au 732-16, roue, R-O-U-E, au 732-16. Restez bien à l'écoute des RMC, ça peut tomber n'importe quand. Pendant les compos, pendant un débat, pendant un 32-16, pendant une pub, le principe de n'importe quand. 20h03, l'After Live, en direct jusqu'à minuit.
RMC,
l'After Live.
Et accueillons tout de suite ceux qui seront adversaires en quelque sorte ce soir pour l'Atalanta. À ma gauche, Johan Crochet, notre drôle de dame italienne. Salut Johan.
Salut Thibaut, salut Oussem, salut coach.
Salut à tous.
Et à notre droite virtuelle, Paulo Breitner pour le Bayer Leverkusen. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Dans un instant les compos, juste avant on est d'accord, Johan, Paulo, on se met tous d'accord, on fait semblant qu'il y a du suspense et tout, mais on sait comment ça va finir, non? On est tous d'accord sur ce... Non?
Johan, tu n'es pas d'accord, Johan?
Ah, moi je suis pas d'accord, moi. Non, mais t'es sacrément vilain. Mon cher Thibaut. Non, parce que ça serait encore plus cruel. Tu vois, autant perdre 3-0 dans le temps réglementaire.
Ah oui.
Et voilà, parce que l'Atalanta, les fins de match en Coupe d'Europe, si vous vous souvenez du Final 8.
Oui, on s'en rappelle.
Ils s'en souviennent très bien de mener et de se faire rattraper dans le temps additionnel. Donc non, évitons ça.
Paulo, il peut y avoir un autre scénario que celui-ci?
Je pense qu'Alonso préférait mener 3-0 après la minute, mais parce que ce running gag, on en a beaucoup parlé hier soir, c'est vrai, on a le sentiment que Leverkusen est invincible, mais quand même, si on va chercher des matchs nuls ou des victoires à l'arrache dans les arrêts de jeu, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné avant, quoi. Donc, c'est ça qui me dérange un petit peu dans le running gag ambiant, on va dire ça comme ça.
Et pour cette finale de Ligue Europa, au commentaire pour cette rencontre qui a lieu à Dublin, Valentin Jamin est là. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Valentin.
Et Valentin, t'as les compos.
évidemment, les compos sont là avec celle de l'Atalanta pour commencer, puisque le match c'est Atalanta Bayer Leverkusen. Dans la cage, Juan Musso, pas titulaire en championnat mais qui joue l'Europa League. Il y a un seul changement en fait par rapport à l'équipe qui a battu l'OM au match retour en demi-finale, c'est Kolasinac qui intègre la défense à 3 avec Isaac Yen et Jim City. Il faut rappeler que De Roon est absent, un milieu de terrain avec Coupe Miners, Ederson, couloir gauche Ruggeri, couloir droit Zappa Costa, et puis en attaque Scamacca est aligné en pointe avec à sa gauche Lookman et à sa droite le Belge Charles De Ketelaere. Côté Bayer Leverkusen, Kovar qui est habituel remplaçant également en championnat mais qui joue l'Europa League est dans la cage, charnière avec trois centraux Stanisic, Ta et Tapsoba, couloir droit Frimpong, couloir gauche Incapié, Xhaka et Palacios au milieu de terrain, Florian Wirtz un petit peu plus haut à gauche, Grimaldo à ses côtés, et puis en pointe, alors c'est une petite surprise, Polo nous le dira, mais c'est l'ancien Toulousain Amine Adli, pas de Patrick Schick, pas de Victor Boniface pour occuper cette attaque des champions d'Allemagne.
Merci Valentin. Polo, surprise ou pas?
Non, il utilise ce 3-4-2-1 avec un faux neuf depuis quelques semaines. En fait, on a Stanisic qui va se retrouver piston droit, Frimpong qui va jouer aux côtés en fait de Wirtz, et Adli qui va tourner et courir un petit peu. C'est un petit peu spécial en fait, c'est ce qu'il fait depuis quelques semaines. Et en fait, il y a deux attaquants qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau, c'est Patrick Schick et Boniface qui sont opérationnels. Mais en fait, il utilise souvent cette stratégie pour essayer de gagner tranquillement la rencontre, et lorsque ça ne va pas, il fait rentrer ses attaquants. C'est voilà. C'est un peu une surprise. Donc en fait, il privilégie la technique des joueurs au buteur. L'un des problèmes de Leverkusen d'ailleurs, c'est son efficacité devant le but. Il se crée énormément d'occasions, mais voilà, c'est comme ça qu'Alonso fonctionne depuis quelques semaines.
Et une coïncidence aussi, c'est que les deux gardiens donc sont pas les gardiens habituellement titulaires. Alors, donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans ce match, dans le match.
Alors juste, c'est Kovar qui est le gardien remplaçant, c'est Radeki normalement qui est titulaire à Leverkusen. Moi, je suis pas un grand fan de Kovar, hein, beaucoup plus jeune que Radeki. C'est le format 1m95, très grand, etc. Mais je le trouve pas exceptionnel. Donc j'ai du mal toujours à quelquefois à suivre le coach Alonso.
Sur la présence de Wirtz, est-ce qu'on fallait croire au fait qu'il était incertain, ou on a voulu nous bluffer un petit peu, Polo?
Non, il a eu des problèmes à la cuisse, vraiment. Alors déjà, il a eu une baisse de niveau parce qu'il n'arrêtait pas de jouer. Hein. Rappelons qu'il a longtemps été blessé et qu'il a mis un an à revenir. Il est revenu à un niveau phénoménal, au point évidemment d'être élu joueur de la Bundesliga 2023-2024. Mais sur les dernières semaines, il était un peu fatigué, et surtout il avait reçu une béquille à la cuisse. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça se résorbe.
Ça reste, en fait. Oui, ça reste.
Ça dépend, une béquille, ça peut être rien, mais ça peut être très grave.
Et en fait, même Alonso ne voulait pas le faire jouer pendant plusieurs matchs de championnat. Et finalement, Wirtz voulait absolument jouer les 20-25 dernières minutes. Et donc, il est opérationnel pour ce match. Mais disons que c'est peut-être pas un Wirtz à 100%.
Johan, ton analyse de cette compo de Gasperini ce soir, pas de surprise?
Non, c'est extrêmement logique. La seule petite surprise, moi j'attendais plutôt à Cop Miners un poil plus haut pour avoir Lookman en impact player en cours de match, parce que je le trouve vraiment bon aussi là-dessus quand t'as commencé à fatiguer un peu les défenseurs. Un mec un
il peu peut faire ça, il peut faire ça et le autour de
il
de
l'a fait plusieurs fois en championnat et en Coupe d'Europe. C'est devenu un joueur total, hein. Cop Miners, c'est vraiment un milieu de terrain incroyable. Et je pensais qu'il opterait pour ça en mettant Pazalic au milieu de terrain avec Ederson.
Okay.
Mais il a décidé de jouer avec toutes les armes offensives dès le début, ce qui est plutôt pas mal pour le spectacle. Et après, il y a Kolasinac qui revient, il faudra voir dans quel état physique il sera.
Il n'avait pas joué depuis Marseille, là, le
Il s'est blessé contre Marseille.
Ouais. Exactement. Mmh. Et comme c'est quelqu'un qui a des très gros muscles, avec des très gros appuis quand il accélère, il faudra faire attention parce que sur les changements de rythme,
c'est galère.
Ça peut être problématique. Alors toi, tu sais pas pour les questions de muscles.
Justement, c'est pour ça.
Ok, d'accord. mais Kolasinac, et derrière, il y a pas beaucoup de solutions. Il peut y avoir Scalvini qui entre, par exemple, mais c'est pas un mec qui joue côté gauche, donc il faut changer plusieurs joueurs. Donc c'est pas optimal.
Roland, là, ton analyse, on sera en détail sur ces deux clubs dans quelques minutes. Et d'ailleurs, on vous attend au 32-16, hein, si vous voulez venir réagir, supporter d'un de ces clubs. Au vu des compos, bon, comment tu vois cette finale?
Je regarde les compositions d'équipe, mais comme j'ai pas la chance de connaître les joueurs comme peuvent les connaître nos deux amis, je regarde surtout l'organisation. Et bizarrement, l'organisation présentée après le mécanisme de cette organisation, on aura l'occasion de le revoir. C'est un 3-4-2-1, c'est-à-dire l'organisation de Lens chez nous. Est-ce que le mécanisme c'est le même? Qu'est-ce qu'on fera avec ce 3-4-2-2-1? J'attends ça avec impatience et je sais pas pourquoi, mais cette équipe de l'Atalanta, ben je la trouve très sympathique à voir jouer aussi, et je serais pas étonné, même si ça suffira peut-être pas pour gagner cette finale, mais je serais pas étonné de les voir partir fort et ouvrir le score. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention, mais je vais quand même regarder un petit peu la façon dont se déplacent les trois arrières centraux par rapport aux deux milieux devant les trois arrières centraux.
On est d'accord, Polo, Johan, on est a priori quand même sur des schémas miroirs, hein, deux équipes qui se ressemblent.
Alors pour le coup, Gasperini, ça fait 8 ans que c'est comme ça. Hein.
C'est pas une surprise. Le même schéma depuis des années.
La seule variation qu'il y a eu, en gros, c'est est-ce que tu fais 2 plus 1 oui, ou 1 plus 1 2, plus 2. Parce que quand il y avait Muriel et Zapata, t'étais plus sur un 1 plus 2.
Avec Papou Gomez derrière.
Quand il y avait Lissic, c'était aussi plus sur un 1 plus 2.
C'est difficile de répondre, puisqu'il y a les avantages et les inconvénients, parce que j'ai eu le plaisir d'essayer un petit peu tout pendant 31 ans. Et donc, ça dépend des joueurs que tu as.
Ouais.
Si tu as donc un Giroud, bah, tu peux avoir un Giroud avec deux lapins en retrait qui est capable. Et le point de fixation, c'est Giroud. Si après, le point de fixation, ben c'est Ouahi, là, tu comprends rien. Donc, oui. tu te dis, bon, comment on va pouvoir jouer? Ben, on joue avec les appels de Ouahi en profondeur.
Ouais.
Mais à choisir cette organisation, je préfère un profil.
Mais là
profil
tu vois, sur le trio offensif, là, en tout cas, les trois attaquants de l'Atalanta, je trouve que c'est très homogène. Moi, je trouve que De Ketelaer est capable de garder le ballon aussi au pied.
Il est Lookman,
ça prend la profondeur. Ouais. Scamacca est très habile aussi, dos au but. Je trouve que c'est vraiment très complémentaire.
C'est le plus complet, et je trouve que là où ils se sont améliorés cette saison lors du mercato, c'est dans la complémentarité des profils offensifs. Parce qu'on avait perdu beaucoup de technicité.
Parce que
quand Papou et Gomez et Ilicic étaient là, tu avais des joueurs de classe qui étaient hors du commun. Et tu avais totalement perdu ça pour un jeu beaucoup plus physique, beaucoup plus de course, beaucoup plus
les deux pistons, donc, que tu connais évidemment mieux que nous, par rapport aux deux pistons de Leverkusen.
Ah, c'est pas les mêmes profils.
C'est un chauvinisme.
Non, les pistons de Leverkusen sont bien plus forts. C'est pas du tout le même profil. Zappa Costa est pas un mec ultra rapide. Par contre, il a une bonne technique, il a une bonne qualité de centre.
Il a un bon centre. Ouais.
Ruggeri, une bonne qualité de centre. Moi, je le trouve un peu brut, Ruggeri. J'ai un peu de mal. J'ai du mal
mais
à le voir.
C'était pas un axial au niveau.
Non, ça a toujours été un mec à gauche. Ouais. Même quand il a été prêté à Salerne et tout, il a joué à gauche. Je suis pas fan de Ruggeri. C'est un Gossens moins fort, en fait, pour reprendre un peu l'idée.
Alors messieurs, on va vous retrouver Johan Crochet, Polo Breitner à partir de 20h30 pour rentrer totalement dans cette finale. Bayer Leverkusen peut-il perdre ce soir 32-16 si vous voulez en débattre avec nous, et l'Atalanta, est-ce enfin le grand soir pour Gasperini? Enfin,
t'es en train de me dire qu'après il y a un débat Nice-Farioli et que je ne participe pas
dans un instant.
L'Ajax, on va parler de l'Ajax en plus.
Mais tu peux rester si tu veux.
Un peu que je vais rester.
Polo aussi si tu veux, mais sinon on te retrouve à 20h30. C'est l'After Live avec
Coach.
Vas-y Polo, on t'a pas entendu.
Je vais passer sur les chaînes allemandes.
Très bien. Et tu nous fais un débrief dans un quart d'heure. Ça c'est bon.
Quelle star. Quelle star.
À tout de suite, Polo. Non, je pense qu'il va passer sur les chaînes allemandes. Il va regarder les chaînes allemandes, je pense.
C'est pas lui qui va sur les chaînes
allemandes. Non, je pense que là tu.
Donc je me suis enflammé sur la star.
Je pense.
Ouais. C'est pas si une star. C'est ça que t'es en train de dire de Polo.
C'est une star. Fou, quoi. C'est une star, mais c'est pas Julien Laurence. Tu vois, c'est une star normale. Tout à l'heure, mon Polo.
Ciao.
20h14 dans un instant. L'OGC Nice au programme. Effectivement, ça a bougé énormément à Nice aujourd'hui. Le départ de Farioli pour l'Ajax. Gisolfi est officiellement à la Roma. On parle de Maurice et Genesio pour venir les remplacer. Et ce soir, le capitaine Dante a prolongé une saison supplémentaire. Est-ce que la saison niçoise a été réussie avec tous ces hommes-là? Êtes-vous inquiet pour la suite? Je vous attends au 32-16, mais niçois, c'est l'After Live avec Yvan Crochet, Coach Courbis et Oussem. À tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC, l'After Live.
Oussam Moussaïev, Thibaut Jean-Grande.
Il est 20h18, nous sommes mercredi le 22 mai et ce soir c'est finale. Finale européenne. La Ligue Europa, l'Atalanta Bergame face au Bayer Leverkusen. Un match à vivre en intégralité sur RMC. Bien évidemment, le coup d'envoi c'est 21h avec coach Courbis qui est là. Johan Crochet sera avec nous et d'ailleurs il est resté dans une dizaine de minutes. On s'intéresse au Bayer Leverkusen. Peut-il perdre ce soir? Le club allemand champion, invaincu, qui sera également en finale de Coupe d'Allemagne samedi. On en débat avec vous au 32-16. Et puis l'Atalanta est enfin le grand soir pour l'équipe de Gasperini qui attend toujours son premier trophée. N'hésitez pas, là également le 32-16. Mais d'abord, à 20h18, avec coach, avec Johan, avec Oussem et avec vous tous au 32-16, l'OGC Nice, grosse journée. Grosse journée sur la Côte d'Azur aujourd'hui. Farioli est officiellement parti. Il entraînera l'Ajax la saison prochaine. Gisolfi a été officialisé par la Roma, directeur sportif. Dans le même temps, on vous annonce ce soir que Florian Maurice et Bruno Genesio sont en position de pouvoir rejoindre l'OGC Nice la saison prochaine. Et ce soir, le capitaine Dante a prolongé d'une saison. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux.
Excellente l'annonce.
Vidéo excellente. Je sais pas si t'as vu ça, Roland.
Non.
L'OGC Nice qui met un tweet en disant merci pour tout, capitaine. Puis là, t'as une vidéo qui commence où Dante qui.
Avec
qui,
l'émotion.
Voilà, l'émotion. J'ai passé de bons souvenirs. Puis à la fin, il dit, voilà, je suis content de repartir pour une saison de plus.
J'ai prolongé. Ils ont fait croire à son départ. C'est
ouais,
beau.
C'est super. L'OGC Nice de Farioli, de Gisolfi, de Dante a-t-il réalisé une bonne saison? Et êtes-vous inquiet pour la suite? On en débat au 32-16. Roland, déjà, ton analyse sur cette saison niçoise.
Ah, mais moi, il n'y a pas photo. La saison, elle est bonne compte tenu des moyens, puisqu'on est obligé de prendre comme point de repère le budget. À partir du moment où on s'attendait à des budgets extraordinaires avec l'arrivée de Ineos, 150 millions,
l'histoire avec Manchester
millions,
en cours de saison,
etc. On se disait, bon, ben, Nice va maintenant rivaliser avec Monaco, avec le Paris Saint-Germain, et va jouer le titre. Mais quand on apprend que derrière ça, il y a un budget à 80 millions, je crois que c'est plus ou moins ça qu'on a pu nous dire. Et si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, mais terminer cinquième avec ce budget, bien évidemment que la saison est réussie, même si tu peux avoir des regrets dans une période qui a quand même duré,
mais ils ont fait un bon début de saison,
qui a quand même duré 7 à 8 matchs, mais le bon début, évidemment, que un petit but à zéro, ça fait 3 gros points. Hein, tu connais ma copine, la victoire à 3 points.
La victoire à 3 points.
Mais c'est vrai que le nombre de points qu'ils ont pris en gagnant un zéro, ben c'est pas interdit de gagner un zéro. Si les équipes, ils savaient le faire de gagner un à zéro, ben
mais tu sais, coach, pourquoi on a un goût amer? Parce qu'en fait, quand on regarde le début de saison de Nice et qu'on voit qu'après, comment ils se sont effondrés, on se dit, mais on s'imaginait pas ce qu'ils s'effondrent autant. En fait, c'est ça l'histoire. C'est que quand ils font leur début de saison, on dit « Ah oui, c'est bon, ça va dans la Ligue des Champions ».
Ils se sont effondrés, Houssen, mais pas au point de ne pas terminer dans les 5 premiers. Donc, il y a eu une période qui a été peut-être un petit peu au-dessus de leur niveau avec le petit brin de réussite qu'il faut dans tous les matchs pour pouvoir les gagner ou ne pas les perdre. Et après, cette solidité, elle a disparu. J'ai pas tout en tête, mais je crois que il y a des joueurs qui sont très, très important pour cette solidité, c'est notamment le numéro 6.
Ndeshimiye, oui.
Ben oui,
qui a été blessé.
Qui a disparu, oui. qui est passé arrière-centre parce qu'il y avait un blessé. Donc,
ils ont perdu des cadres à des moments clés.
Voilà, ce Nice-là, des regrets, peut-être pour la Coupe de France, d'avoir pas eu la chance de recevoir et d'être battu, je crois, au Parc des Princes contre Parc des Princes ou Nice contre toute attente. Là, c'était pas 1-0, c'était 3-2 qui ont réussi à battre le Paris Saint-Germain. Non, pour répondre à la question, pour moi, la saison de Nice est tout simplement réussie.
Philippe, supporter niçois, est avec nous au 32-16. Salut Philippe, bienvenue sur RMC.
Bonsoir messieurs, bonsoir coach.
Salut Philippe.
Bonsoir. Je partage tout à fait l'analyse du coach. C'est exactement ça. Nice, sur la première partie de saison, je pense qu'on a surperformé. On était en sur-régime. Et à la fin, ça a payé au niveau bien évidemment physique, mais également au niveau mental. Il y a eu le rachat de Ineos, de Manchester par Ineos. Donc déjà, on a vu que la voilure et notamment au niveau financier, les ambitions elles avaient été revues à la baisse, puisque maintenant le club phare c'est Manchester United, c'est plus l'OGC Nice. Donc tout ce qui est investissement.
Et justement, je te donne un exemple d'un match où tu es obligé d'en rajouter 1, 2, voire 3 points d'interrogation. Le Nice-Monaco et le Monaco-Nice, il est quand même toujours intéressant sur la Côte d'Azur. Et quand Nice gagne à Monaco avec un attaquant qui rate deux pénalties. Donc, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre que ben tout va bien.
Et Philippe, justement, quand on te dit ce soir, donc t'as les départs, mais tu t'y attendais depuis quelques jours. D'ailleurs, le gym s'y attendait et ne veut pas perdre de temps dans sa reconstruction. Les Niçois pensent au tandem Florian Maurice, Bruno Genesio pour relancer l'OGC Nice la saison prochaine. Est-ce que ça te plaît de partir avec cette reconstruction là?
Pas du tout, parce que déjà, d'une, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que le club, en fait, il nous prend pour des dindons depuis la reprise de Ineos.
Pourquoi ?
Regardez bien. Pourquoi ? Parce que tous les deux ans, à peu près, le club vous dit, on repart à zéro.
Ah oui.
On repart à zéro. Et après, ils se permettent de vous parler de continuité. Mais si tu repars à zéro, ta continuité, tu n'en auras jamais.
Ah oui.
Ça veut dire que tu ne peux pas pérenniser quand tu repars à zéro. C'est-à-dire que là, on va encore prendre du Maurice et du Genesio. Mais c'est pour faire quoi? Maurice Genesio, ce sont des gens qui sont bons dans la post-formation. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire quoi? Ils vont te sortir des joueurs du centre de formation ou des jeunes qui sont...
Mais c'est bien ça, non?
Bah oui, pour Nice.
Mais
t'as un bon centre de formation à Nice, Philippe.
Attends. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La dernière fois qu'on a gagné la Gambardella, c'était en 2008.
Ça n'a rien à voir. Je te le dis que ça n'a rien à voir.
Tu peux avoir une équipe de U19 qui gagne pas la Gambardella et à l'intérieur de cette équipe, trois joueurs extraordinaires.
Ben oui.
D'accord, mais coach, alors pourquoi t'en as pas qui jouent en équipe Fagnon? Tu peux m'expliquer?
Parce que le projet n'était pas celui-ci.
Mais c'est, les gars, à la base, on t'a bien dit que Nice, ce que voulait faire Ineos, c'était du trading. C'est-à-dire du trading, tu pouvais acheter des jeunes joueurs qui sont dans des autres clubs.
Mais tiens un exemple où tu n'es pas chanceux, c'est avec Diop que tu récupères chez le voisin, et le voisin d'à côté. Il arrive, il se blesse et finalement.
20 millions d'euros. Tu l'as déjà payé 20 millions. Attention là, si tu comptes faire une plus-value sur un joueur où tu as investi 20 millions, il faut que le gars, il soit vraiment très très bon pour le revendre.
Ah non, mais 40, 50, évidemment qu'on est d'accord.
Mais Philippe, justement, si le projet à Nice est de moins investir puisque l'argent il est plutôt pour Manchester United, tu peux dire peut-être qu'avec ce tandem Maurice Genesio, tu peux, avec des joueurs à moindre coût et avec des jeunes, espérer des résultats.
D'accord, donc tes ambitions, ton plafond, on va dire, de performance, c'est la 6e place maximum, alors.
C'est un peu l'idée. Je pense que ça n'était pas loin de l'idée.
Le point de repère. Excusez-moi. Le point de repère que je prends parce que j'arrive pas à en trouver un autre, c'est le budget. À partir du moment où il y a
le sixième budget
qui est cinquième ou sixième, et que tu as, si tu veux, un duo, voire un trio, parce qu'il y a quand même des gens compétents qui sont quand même restés. Jean-Pierre Rivère, c'est un des présidents les plus compétents. Pardon?
Il a les mains liées, coach. Il est président.
Non, mais je veux dire par là,
qui a un peu de stabilité.
Je veux dire par là. Non, mais tu me laisses pas finir. Donc, tu sais très bien que même s'il y a le directeur sportif qui part, le recruteur qui part, l'entraîneur qui part, ben Jean-Pierre Rivière, il va savoir qui il faut prendre pour Nice. Mais ce que tu ne changeras jamais, c'est que maintenant, qu'on s'appelle Maurice ou pas Maurice, qu'on arrive à Nice, ce qu'il faut maintenant, c'est savoir dépenser au mieux le montant d'argent que tu as à dépenser. Il est là, le boulot. Choisir des joueurs avec les stats qu'il y a maintenant et choisir des bons joueurs, mais il y a tout le monde qui sait le faire. Mais par contre, choisir des joueurs complémentaires entre eux avec un effectif équilibré, pas tout le monde sait le faire.
Et justement, Maurice et Genesio, ils savent le faire.
Moi, je trouve qu'il y a un délit de sale gueule. Moi, je trouve qu'il y a un délit.
Sur Rennes, il y a eu de bonnes choses.
Exactement.
Et de moins bonnes.
Et il y a un délit de sale gueule.
Maintenant, il faut le dire. On va voir ce qui se passera à Nice, puisque Flo Maurice.
Il n'a pas fait que des mauvaises choses à
Rennes. Exactement.
Moi, je trouve qu'il y a un délit de sale gueule, parce que c'est pas un nom flamboyant, parce que peut-être qu'il n'est pas espagnol.
Depuis deux ans, il n'a pas acheté un bon défenseur.
Non, mais il s'est troué, il a tenté des trucs, mais ça arrive à tout le monde. Trouve-moi un directeur sportif qui ne s'est jamais troué. Je vous parle que quand même Ghisolfi, qui a été très bon à Lens, je l'ai trouvé moins inspiré à Nice, tu vois, par exemple. Alors c'est facile à chaque fois, parce que Maurice, il parle pas dans les médias ou qu'il se montre pas trop, donc on l'entend pas trop. Peut-être qu'il a pas les numéros de téléphone des bons journalistes pour faire passer ses messages. Mais il y a un délit de sale gueule. Moi, je peux te dire que je connais des mecs qui sont sur le terrain, qui vont regarder des académies en Afrique et les clubs, la plupart, les plus grands clubs européens et les plus grands clubs français envoient des recruteurs. Lui, il se déplace, il va regarder avec ses yeux. Il passe beaucoup de temps à regarder les joueurs. Il va dans les divisions inférieures, il parle avec les joueurs. Il fait des entretiens.
Oui, mais après, il faut faire les bons choix.
Donc, je te dis pas qu'il fait à tout bien à 100%, mais de dire que c'est pas un bosseur, non, j'ai entendu des trucs de fou sur le
faut, ce qu'il faut, c'est ça, savoir dépenser, parce que tes possibilités financières, ils sont limitées. Là, tu te retrouves pas à Paris Saint-Germain que si tu te plantes sur un joueur à 90 millions, on s'en fout.
Ah oui.
Donc, là, 90 millions, c'est ton budget. Donc, tu es obligé quand même de réfléchir et de se dire, tiens, je vais avoir l'idée que les autres n'ont pas, celui-là, à 5 millions, je le préfère que celui-là à 15.
Bien sûr.
Et après, sur le terrain, il sera bien utilisé. Et là, tu te diras bravo.
Toutes les infos sur rmcsport.fr, ça a énormément bougé à Nice. Et vous pourrez également écouter Dante, notamment au micro de notre correspondant à Nice, Maxime Tillier, que j'embrasse. Merci Philippe d'avoir été là. À très vite. Bye bye.
Bonne soirée.
Ciao Philippe. Ciao, merci.
Salut Philippe. Il est 20h29. C'est l'After Live. Vous êtes sur RMC dans un peu plus d'une demi-heure. Le coup d'envoi de notre première finale européenne de la saison. Et quelle finale? La Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen face à l'Atalanta Bergame. Ce sera à vivre ici sur RMC. Et sachez que dans un instant, on s'intéresse au Bayer. Va-t-il perdre un match, le Bayer Leverkusen, cette saison? On parlera également de l'Atalanta. Enfin, peut-être le premier grand soir de l'Atalanta de Gasperini. Je vous rappelle également que demain soir, dans le quiz de l'After, on vous offre votre bomber Shot.
Oh.
Parce que c'est comme ça qu'on prononce.
On dit pas Scott.
Non, la marque iconique new-yorkaise avec en plus le scratch Afterfoot.
Wow.
Parce qu'on dit Afterfoot. Qui va avec le Bombers. Pour vous inscrire dès aujourd'hui, vous envoyez quiz par SMS au 732-16. Comment on écrit quiz, Oussem?
Q-U-I, un seul Z.
Fort, 732-16.
Jouer et gagner sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Ouais, toute la collection sur shot-store.com.
Ouais, pardon.
Il est 20h30, petite pause, on est de retour à fond sur cette finale de Ligue Europa. Bayer Leverkusen, Atalanta Bergame avec Oussem, avec Coach Courbis, avec Jus, avec Johan Crochet, Paulo Breitner et avec vous tous au 32-16. Vous êtes sur RMC, ne changez rien.
Tu cherches la meilleure appli pour parier sur tes matchs préférés? Télécharge Unibet. Unibet, c'est la possibilité de parier sur plus de 200 paris par match. Résultat du match, buteur, score exact, c'est à toi de choisir. Inscris-toi dès maintenant et profite d'un bonus exceptionnel. Unibet, par les joueurs, pour les joueurs. Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, l'After Live.
Oussem Moussaïev, Thibaut Jean-Grande.
Avec Coach Courbis pour la finale de la Ligue Europa, 21h à Dublin. Le Bayer Leverkusen a vaincu cette saison face à l'Atalanta Bergame de Gasperini. Ça va être à vivre en intégralité sur RMC avec Valentin Jamin au commentaire qui est toujours là. Valentin rappellera les compos dans quelques minutes. 32-16, si vous voulez réagir, le Bayer peut-il perdre ce soir? On vous attend au 32-16. Johan Crochet de retour. Paulo Breitner également. Paulo qui passait sur les chaînes allemandes, nous disait-il tout à l'heure. Du coup, tu as pu écouter tout l'état-major allemand. Qu'est-ce qu'on dit du côté du Bayer Leverkusen
Alors, ils ont interrogé, les journalistes allemands ont interrogé évidemment coach Alonso et on lui a demandé quelle était la recette pour ce soir. Il a répondu en deux mots, parce que son allemand est très très bon au passage. Il dit gut spielen, c'est-à-dire il faut juste bien jouer au foot, trouver la balance et ça va s'ouvrir, on va trouver les solutions pendant les rencontres.
Ça revient à ce que tu disais, Paulo. mollo sur la maîtrise technique dans le choix des joueurs, en fait.
Mais en fait, ce qui est impressionnant avec Alonso, en fait, c'est que tout coule sur lui. C'est-à-dire que tout, tu vois, tout le monde dit, ah, attends, il y a quand même deux finales cette semaine, si on pouvait même en cas y gagner qu'une et tout. Et lui, il répond d'une façon différente. Il dit, mais non, c'est génial dans une semaine d'avoir deux finales. Dire, tu peux te faire un palmarès extraordinaire, etc. Donc, c'était important. Il y a le directeur sportif, Simon Rolfes, qui connaît bien Johan, qui est un ancien joueur mythique de Leverkusen et qui n'a malheureusement pas eu la carrière qu'il aurait mérité, même s'il a été international à cause d'un certain Balak qui lui piquait la place. Oui, oui. Et ben Rolfes disait que la saison était extraordinaire, évidemment, parce qu'en plus, avec les buts marqués lors de la dernière minute et tout ça. Et puis, il y avait Mataos qui était consultant et qui, lui, a défendu l'Europa League. Moi, je suis un grand partisan de l'Europa League, évidemment. Lui qui l'a gagné deux fois, en 91, évidemment, et en 96, avec le Bayern 91, c'était, que ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est avec l'Inter, évidemment. Et là, il disait que c'est important pour le foot allemand de gagner ce genre de finale. Mais pour en revenir à Alonso, si tu veux, c'est impressionnant la cool attitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout le stress qu'il y a autour de cette rencontre où on n'arrête pas de dire à tort ou à raison que Leverkusen est le favori, ceci, cela, il dit il faut jouer de cette façon, il faut arriver ça, il faut avoir la bonne balance, on sait qu'on va avoir des moments difficiles durant la rencontre, que par contre, si on a des occasions de but, il faut les mettre tout de suite, comme ça on se pose pas de questions. On a le banc qui est là et qui est prêt. Il parle de vite, si on lui demande comme dans quel état est Florian Wirtz, il top fit. Voilà, donc on est prêt à faire. Et il n'y a aucune pression, si tu veux. C'est pas un monument de jouer une finale d'Europa League pour lui. Et je trouve ça assez extraordinaire, cette façon. Mais je pense que aussi que c'est son palmarès qui parle, quoi.
Roland, ça peut aider. Tu penses que c'est ça aussi on a beaucoup parlé, bien sûr, de Xabi Alonso, de toutes ses qualités de technicien, notamment. Mais là, ce que met en avant Polo, son discours, cette cool attitude, c'est important dans ces moments-là de réussir à transmettre à ses joueurs. Attends, Roland, ton micro. Est-ce qu'on peut allumer le micro de Roland? C'est bon, vas-y, Roland.
Pas seulement dans ces moments-là, je crois que ça fait partie des qualités d'Alonso, tout simplement de savoir expliquer les choses et de savoir les expliquer d'une certaine façon, justement au moment où il faut savoir les expliquer. La préparation d'une finale comme ce soir, c'est pas la même préparation d'un match de championnat à domicile ou d'un match de championnat à l'extérieur. C'est totalement différent. Et quand on voit aussi ce qui se passe dans les dernières minutes de cette équipe de Leverkusen, évidemment qu'on peut avoir le réflexe de dire ils sont chanceux. Oui, mais ça fait partie aussi de la réussite, ça fait partie du talent, parce qu'ils sont ils sont chanceux aussi, parce qu'ils ont les qualités pour aller techniquement trouver des solutions à deux minutes de la fin que beaucoup d'équipes n'y arrivent pas. Donc là, moi ce soir, j'attends ça avec impatience, parce que l'Atalanta, ben c'est vraiment le club capable de poser beaucoup de problèmes à Leverkusen.
Moi, la question que je me pose, et je la pose aussi à vous, Polo et coach, mais je ne sais pas si vous avez cette réponse, c'est un peu philosophique. Je me dis à quel point. À quel point un joueur qui a eu son palmarès et qui a été un grand joueur comme lui, qui démarre une carrière d'entraîneur, peut apporter son expérience de joueur dans des finales. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs? Est-ce qu'il leur dit? Est-ce que vous avez des infos là-dessus?
J'appelle Thibaut Leplat.
Je vais répondre là-dessus. Lorsque Leverkusen a gagné 2-0 à Rome, les journalistes sont allés le voir, bon, c'est tranquille la finale là, et là il s'est pas mis en colère, il est redevenu le joueur qui sait que rien n'est fait. Et pourquoi? Parce qu'il a vécu la finale de Ligue des Champions de 2005, évidemment, Liverpool, où ils étaient menés 3-0 et qui revient à 3-3, et il dit ça jamais. C'est-à-dire que derrière le côté cool attitude et tout ça,
il y a quand même la rigueur.
Il y a un match n'est jamais, respecte ton adversaire parce que ça peut t'arriver dessus sur le coin du nez n'importe quand. Donc c'est ça que je trouve qui est assez impressionnant, et que, évidemment, je pense qu'on le voit pas sur le terrain, on le voit pas dans les discours de communication, y compris des joueurs qui disent tous on est une équipe, c'est fabuleux, etc. Alors qu'on sait qu'il y a un ou deux joueurs qui vont partir. Mais ce qui me semble important, c'est cette façon, dès que ça devient sérieux, et ben justement, on est sérieux sur le terrain.
Et par rapport à cette série folle, donc de 51 matchs sans défaite, on soulignait tout à l'heure les stats de dingue en fin de match, notamment 33 buts marqués par
le Bayer Leverkusen. C'est le rêve de Roland, 51 matchs sans défaite.
Pourquoi?
Roland, il rêve de ne pas prendre deux buts dans un match. Alors imagine, c'est fait 51 matchs sans défaite.
51, c'est vrai que c'est bien.
Ah, 33, ça me bute.
33 buts, les gars. La qualité que c'est.
Regarde ma stat. 33 buts après la 80e minute, 15 buts dans le temps additionnel. Et ce que tu disais tout à l'heure, Polo, parce qu'on peut analyser ça en disant, waouh, c'est exceptionnel.
Il y a des failles.
C'est que toi, tu retiens plus, même Polo, les failles finalement que le côté positif de ces stats-là.
Mais oui, parce que évidemment cette série est exceptionnelle et il faut féliciter les joueurs, le club, tout ce que tu veux. Mais moi, une saison n'est jamais rose. Les rencontres, par exemple, en Bundesliga contre Stuttgart ont été plus que compliquées. Le 2-2 du match aller entre le Bayern et Leverkusen, je suis désolé. Le Bayern aurait été à l'époque un peu plus incisif devant. Ils auraient pu remporter la rencontre. Évidemment, Leverkusen l'emporte 3-0 au retour. Et puis, il y a aussi les matchs d'Europa League et à élimination directe. Je suis désolé, les amis, mais il y a quand même quelques petits soucis en huitième de finale. Ils sont menés deux fois au score et ils marquent durant les arrêts de jeu. En quart de finale, ils balayent West Ham lors du match aller très bien, mais qui a vu le match retour, la première mi-temps dramatique et catastrophique que fait Leverkusen? Enfin, où on est forcé de sortir Kosonou au bout de 30 minutes de jeu parce que ça fonctionne pas. Sauf qu'ils sont allés égaliser, évidemment, après la 80e minute en seconde mi-temps. Donc, on l'oublie. Et y compris contre la Roma. Leverkusen s'amuse au match aller contre la Roma, mais qu'est-ce qui se passe au match retour? Il donne deux pénaltys à la Roma, ce qui permet à la Roma de revenir dans le jeu. Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là font que, derrière les statistiques, t'as des rencontres de 90 minutes qui ne sont pas forcément maîtrisées de A à Z. Et c'est pour ça que je dis que, autant la performance est grande de Leverkusen cette saison, mais si on me dit que c'est une grande équipe et qui maîtrise son jeu de A à Z, moi, je dis attention.
Oui. Voilà.
Et l'aspect physique
de A à Z, c'est dur. Hein.
Ah, oui.
Sur l'aspect physique, ils sont un peu cramés ou pas aussi? Est-ce que c'est ça aussi, ces difficultés cette fin de saison?
Non, c'est pas à ce niveau-là. Ça va. Il fait un turnover pour garder toute son équipe concernée. Il y a bien des surprises. Hein. Stanisic titulaire, tu m'aurais dit ça il y a trois mois, je t'aurais dit non, c'est le remplaçant de luxe, etc. Il n'est pas là. Il a décidé en fait de différents schémas tactiques et comme ça marche et qu'il a les résultats, il peut continuer comme ça. Il s'est permis de faire reposer Wirtz. Il n'utilise plus de neuf devant. Il fait le turnover entre Palace. C'est Andrich, toutes ces choses-là font que ça fonctionne. Mais moi, j'oublie pas que c'est une finale. Et si on voit la dernière finale allemande en Europa League en 2022, on disait que Francfort était largement favori contre les Glasgow Rangers. Je suis désolé, quoi. C'est Trapp qui fait à l'arrêt miraculeux avant de gagner au penalty. Donc tout ça fait que moi, je suis pas je suis pas persuadé que Leverkusen va s'amuser ce soir.
Et justement, l'adversaire, l'Atalanta, on en parle dans un instant sur RMC dans l'After Live à 18 minutes précisément du coup d'envoi de cette finale de Ligue Europa entre l'Atalanta, le Bayern, Leverkusen à vivre ici, bien évidemment, sur RMC en intégralité avec Valentin Jamin en commentaire, avec Polo, Johan Crochet, coach Courbis et Oussem. L'Atalanta au programme tout de suite, ne change rien.
RMC, l'After Live.
Oussem Moussaïev, Thibaut Jean-Grande.
Avec coach Courbis et nos drôles de dames en finale. Ce soir, finale européenne pour Johan Crochet avec son Atalanta face au Bayer Leverkusen de Paulo Breitner. Le coup d'envoi, c'est dans un quart d'heure. C'est sur RMC. Valentin Jamin, toujours là, Valentin?
Toujours là.
Plein de monde, plein de supporters, ça s'est rempli.
Oui, ça s'est rempli évidemment dans cette Dublin Arena. Alors c'est plutôt un stade de rugby d'habitude, c'est pour ça que vous verrez, il y a un virage qui est très très bas derrière un but, mais il y a 50 000 places à peu près, moitié-moitié. J'ai notamment entendu les supporters du Bayer bien siffler les Italiens quand ils sont entrés, mais là c'est l'heure par exemple des tifos, on voit les drapeaux bleus et noirs.
C'est beau.
Ouais, qui sont agités par les Italiens. Et puis en face, beaucoup de rouge et noir aussi pour les supporters du Bayer Leverkusen. Donc l'ambiance est en train de monter à Dublin.
Masse. 20h45.
En bleu et noir, c'est ça?
Oui, exactement. On rappelle les compos tout de suite. Allez, on se fait un petit rappel compo et l'Atalanta dans un instant programme. Vas-y.
Avec pour les Italiens Musso, donc qui garde la cage. Trois défenseurs centraux, Kolasinac, Isaac Yen, le Suédois, et Jim City. Couloir gauche occupé par l'Italien Ruggeri. À droite, Zappa Costa. Au milieu de terrain, Coupe Miners avec Ederson. À gauche de l'attaque, c'est Lookman qui avait marqué contre Marseille en demi-finale. À droite, Charles De Ketelaer. Et en pointe, Scamacca. Il y a un seul changement par rapport à justement cette formation qui a battu les Olympiens. Pour le Bayer Leverkusen, Kovar, habituel deuxième gardien en championnat, continue de jouer en Europa League dans la cage. Stanisic, Ta et Tapsoba pour les défenseurs centraux. Frimpong à droite dans le couloir, à gauche Incapié, un milieu de terrain avec Chaka et Palacios. Et puis Florian Wirtz et Grimaldo annoncés en soutien d'Amin Adli en pointe, même si Polo le disait, ça pourrait bouger dans l'animation.
8 ans à la tête de l'Atalanta, une révolution en Italie, des super matchs, mais aucun titre pour Gasperini.
Ouais.
Est-ce que c'est enfin peut-être le grand soir ce soir?
Ouais, alors on peut le voir comme ça. Moi, ça a été un débat de pas mal de gens en Italie, parce que dès qu'un entraîneur réussit quelque chose, on aime bien le tailler en Italie, et surtout quand il réussit à faire autrement que les dinosaures qu'on a eu pendant des années. Donc on disait, ouais, mais c'est bien beau Gasperini, mais il gagne rien. Mais en fait, t'as envie de leur dire, mais l'Atalanta, il y a 8 ans,
c'est déjà une victoire.
Sur l'échiquier du football italien, c'était rien. Donc on peut pas attendre, on peut pas demander à Gasperini de gagner des titres. C'est pas ça le but de l'Atalanta.
Surtout qu'avant lui,
ça arrive
avant lui,
très bien.
C'est quoi? C'est une Coupe d'Italie, c'est ça?
Ouais, en 63. Voilà. Ouais. Bon. Donc, ouais. Mais c'est devenu un truc pour diminuer le travail réussi par Gasperini.
Alors, qui sort de nulle part et avec de très peu de moyens. On parlait de moyens tout à l'heure.
En fait, ce qu'il faudrait célébrer, c'est surtout le fait d'avoir fait déjà 3 finales de Coupe d'Italie et d'arriver en finale de Ligue Europa. Plutôt que de se dire, bah, oui. Peut-être qu'il aura gagné aucune de ces 4 finales-là, et que peut-être qu'il gagnera aucun trophée avec l'Atalanta, mais en même temps, il est à l'Atalanta, donc.
Et des moyens, on parlait de points européens. Les moyens de l'Atalanta, c'est quoi comme budget?
En fait, en Italie, on parle pas de budget, on parle des recettes, de ce qu'il gagne, parce que c'est comme ça que t'évalues un club, parce que le budget, tu peux tout mettre et rien mettre finalement. Ce qu'il faut regarder, c'est comment tu génères de l'argent pour pouvoir ensuite le dépenser.
C'est-à-dire, le budget, moi qui suis un petit peu limité, c'est l'argent que tu as dans ton club et que tu peux dépenser.
Ouais. Mais ça prend pas en compte le fait, par exemple, de c'est l'argent que t'as à ta disposition et tu peux dépenser, mais tu peux dépenser beaucoup plus que ce que tu génères. Et à ce moment-là, t'es en dette. Ce qu'il faut regarder aussi l'Atalanta, c'est qu'ils sont toujours sur des bilans positifs. C'est ça qui est intéressant. Donc là,
cercle vertueux,
ils sont en gros à 120 millions d'euros de recettes par an, avec du trading de genre aussi régulièrement. Mais l'Atalanta est en vert depuis 8 ans.
T'es pas loin de ce que j'ai vu sur Transfermarkt. Ils disent que le budget est 115 millions d'euros. Donc c'est ça, 115, 120.
Ouais, mais la notion de budget en Italie, on l'utilise pas. Donc
hors transfert, je pense quand même.
Oui, c'est hors transfert.
Ouais, parce qu'en fait, c'est comme le classement Forbes, la Moneyball, comme ça s'appelle. On regarde pas le budget, on regarde les recettes. Et tu as un classement par le nombre d'argent que tu génères. Mais tout ça pour dire que Gasperini, il a été à la base d'une révolution culturelle en Italie qui est arrivée par le bas, non pas par les grands clubs, mais par les clubs de
Sassuolo,
en province. Donc Sassuolo, l'Atalanta,
la Juventus Allegri.
Voilà, par exemple, pas du tout. Non, mais par exemple, on peut inclure Bologne, par exemple, cette saison. Même un club comme Empoli, qui est un club qui fait souvent le yo-yo, mais a fait des choses remarquables en termes de jeu, de développement de joueurs. Tu connais bien Ismaël Benacer, par exemple, qui est passé par Empoli. Donc, il a réussi ça. Il a réussi à, donc ça, d'avoir une influence sur le jeu de manière générale dans son pays. Mmh. Et même à l'échelle européenne, puisqu'il y a des gens qui regardent en France, par exemple, comment ça se passe du côté de l'Atalanta de Gasperini. Je vais vous donner deux anecdotes. Florent Ghisolfi, quand il était à Lens, s'inspirait beaucoup de l'Atalanta. Quand j'avais discuté avec le propriétaire de Lille, le fonds Merlin Partners, le modèle de Lille, c'était aussi l'Atalanta. Donc ça veut dire qu'on regarde vraiment le modèle de développement économique.
Et la sélection n'a jamais regardé ce modèle-là?
La sélection de...
italienne.
C'est difficile parce qu'en fait, si tu veux mettre en place Camille Gasperini, tu le vois, c'est sur une durée, c'est sur 8 ans. Alors ça a fonctionné au bout de 2-3 ans déjà. Mais tu travailles tellement peu avec tes joueurs et en plus t'as pas choisi des entraîneurs qui ont cette fibre-là de jeu ultra physique, etc. Là, c'est vraiment particulier.
Juste par contre, parce qu'il y a cette finale ce soir, il y avait cette finale de Coupe d'Italie la semaine dernière, perdue contre la Juve 1-0. Est-ce que ça a pas mis quand même dans la tête cette petite musique dont tu parlais, mais
possible.
Parce qu'on se disait que l'Atalanta pouvait le faire contre cette Juve-là, quoi.
Ouais, et ils ont jamais trouvé la solution face à une équipe qui défendait très très bas dans ses 20 mètres. Et je pense que ça sera pas le cas du Bayer Leverkusen ce soir. Donc
oui, c'est pas prévu, Polo.
C'est ce que disait Papu Gomez dans la Gazzetta dello Sport ce matin. On lui disait la finale, ça va jouer dans les têtes, etc. Il disait en fait non. C'est pas du tout la même chose. Ok, pendant 2 jours ils ont été tristes, mais là ils vont affronter une équipe qui va jouer de manière totalement différente. Et Gomez disait attention, il laisse beaucoup d'espace derrière. Et c'est assez facile aussi de marquer des buts à Leverkusen. Ils en marquent beaucoup, mais ça peut être aussi facile d'en marquer.
Cette saison d'ailleurs qui peut terminer très fort, parce que la Serie A n'est pas finie pour l'instant.
Il reste une journée.
L'Atalanta est 5e, mais peut aller chercher la 3e place de Serie A.
Exactement. Alors on va prier.
Il y aura des petits calculs d'ailleurs en Italie, c'est ça ce soir.
Et c'est quoi l'avantage de...
Aucun.
Troisième
financier éventuellement.
Non mais justement. Non mais l'avantage, au contraire, c'est que les autres équipes italiennes espèrent que l'Atalanta
ne gagnera pas le dernier match de championnat.
Voilà, mais gagnera ce soir. C'est des calculs un peu.
En fait, l'Atalanta, il leur reste 2 matchs.
Pour qu'il y ait la 6e place.
Alors en fait, je vais tout expliquer. L'Atalanta, il leur reste 2 matchs. 1 ce week-end et 1 une fois que le championnat est terminé. C'est génial, c'est l'Italie. Donc on fait des matchs après la fin du championnat. En termes de régularité sportive. Tout ça, c'est exceptionnel. L'Italie a 5 places européennes déjà. L'Atalanta est 5e. Donc, s'ils finissent 5e, ils seront qualifiés, non pas et qu'ils gagnent ce soir, ils ne seront pas qualifiés en tant que vainqueurs de l'Europa League, ils seront qualifiés en tant que 5e nation du classement de l'Italie. Et donc, la place qui reviendrait normalement à l'Atalanta s'ils gagnent la finale de l'Europa League,
il peut pas y avoir
elle irait au 6e. Voilà. Et donc, le 6e, c'est la Roma.
D'accord.
Actuellement, ça peut être la Lazio encore. Mais c'est pour ça que tous les clubs italiens, la Ligue, enfin pas tous les clubs, mais
une victoire ce soir.
Il va y avoir 6 clubs italiens en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions.
À l'inverse, je parle sous ton contrôle Polo, mais si c'est le Bayer Leverkusen qui gagne, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne. Ça arrangerait le Benfica qui n'aurait pas ses deux tours préliminaires cet été.
Oui, mais attends, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais. Comme en Italie, l'Allemagne a 5 clubs déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, mais si par hasard le Borussia Dortmund gagnait la Ligue des Champions, Francfort serait aussi en Ligue des Champions, ça ferait un 6e. Donc moi j'ai même appris, tu vois, cette semaine, parce qu'il y a des trucs, que Heidenheim, en fonction de du résultat de club d'Allemagne, donc le promu pourrait jouer l'Europa Conference League l'année prochaine. Donc ça, il commence à
y avoir. En Italie, il peut y avoir 9 clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Si la Fiorentina gagne la Coupe
d'Europe, il y a déjà eu 6 clubs qualifiés pour la Champions League.
Bah après, non, mais il n'y a jamais eu autant de clubs qui
participaient. Parce que c'est la première année où il y a 5 clubs déjà. Mmh. Ouais, avec l'ouverture de la nouvelle Ligue des Champions, déjà, ils ont donné
le format. Voilà. Il est 20h52.
Incroyable.
Je remercie Polo. Bon match, Polo. On te retrouve dans l'after, au coup de sifflet final de ce match.
Ciao, ciao.
À tout à l'heure. Bye bye. Yoann Crochet reste avec nous. Coach Courbis également pour vivre en intégralité cette rencontre sur laquelle on parie tout de suite.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guy, notre expert en paris sportif. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à tous.
Bon, salut Yoann, ça dit quoi?
Ça donne Leverkusen largement favori à 1,86. L'Atalanta est à 4,25. Le nul est à 3,75. Messieurs, Leverkusen revient souvent dans le temps additionnel. Je vous propose donc l'Atalanta qui ouvre le score et le Bayer qui ne perd pas. C'est coté à 4,70.
Évidemment.
Ah, c'est pas mal.
Roland, qu'est-ce que tu fais?
L'Atalanta qui perd pas, deux équipes qui marquent.
Ça, c'est 2,75.
Merci beaucoup Yoann, à tout à l'heure.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il est 20h53. Dans un instant, la première finale européenne de la saison. Le Bayer Leverkusen face à l'Atalanta Bergame. C'est à suivre ça sur RMC, bien évidemment, avec Coach Courbis, Yoann Crochet, Oussem Loussaïef et vous tous au 32-16. A tout de suite.
RMC, l'After Live.